Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
Voilà, nous allons ouvrir notre Bible, si vous voulez bien poser vos regards dans le livre de Paul aux Corinthiens, deuxième aux Corinthiens, chapitre 3, et nous allons aborder un sujet que vous connaissez bien, puisque il va être question de tout simplement de lettres. Vous écrivez des lettres, vous envoyez du courrier. Alors écoutez bien. Alors, 2 Corinthiens, je le rappelle, chapitre 3, verset 1er. C'est Paul qui écrit ces mots. Commençons-nous à nouveau à nous recommander nous-mêmes, ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. On va monter un tout petit peu le micro, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Bien. On va aborder le sujet de ce que Paul évoque dans notre texte. Alors, je vais faire un peu décomposer ce que peut être un courrier, vous comprenez? Hier matin, je voulais vous dire, mais je ne suis peut-être pas le seul, j'ai reçu l'enveloppe des impôts. Alors, je vous dis tout de suite, c'est pas pour ça que je suis inspiré ce matin. Alors, ne tremblez pas. Alors, dans un courrier, il y a naturellement, eh bien, l'enveloppe. Et quand on met une enveloppe, c'est une garantie de discrétion. Parce qu'autrement, pour l'envoyer comme ça, hein, une lettre, un bout de papier qui s'en va, de confidentialité. Ça, c'est important, mais ça a son utilité. Il y a toutes sortes de formats, naturellement. Et puis, il y a le message à l'intérieur. Le message, c'est l'essentiel. C'est destiné à une personne ou à plusieurs personnes. D'ailleurs, vous avez remarqué que dans le Nouveau Testament, ce sont que des messages qui sont donnés soit à des individus ou soit à des collectivités, l'Église qui est à Corinthe, l'Église de Galatie, etc., etc. Et puis, il y a naturellement l'affranchissement, parce que c'est celui qui reçoit qui va payer si vous n'affranchissez pas. Hein. Ça fait pas toujours plaisir, mais en principe, on met toujours un timbre. Hein. L'affranchissement, c'est tout simplement, eh bien, ce qui donne à votre message la liberté de circuler. Et c'est quelque chose de recommandé. C'est quelque chose d'autorisé. Et vous êtes à peu près sûr, eh bien, que ça va arriver à destination parce que vous avez payé la taxe, en quelque sorte. Et puis, il y a ce qu'on appelle dans l'armée le vaguemestre. Pour nous, communément, le préposé des postes, le facteur ou le porteur de bonnes ou de mauvaises nouvelles. Et nous savons que tout cela, eh bien, ça s'appelle un messager. Alors, ceci dit, quand nous avons choisi cette parole, il nous est dit, mais vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Dieu vivant, non sur des tables de pierre, mais au niveau de votre cœur. Et c'est vrai que Paul a de bonnes idées pour écrire cela, pour bien montrer quelque chose, et je voudrais d'abord remettre les choses dans son contexte, les replacer dans son contexte. Le contexte du propos, c'est celui-ci. Paul va devoir se justifier. Vous vous rendez compte, le grand apôtre Paul, qui a eu les révélations de Dieu, qui a vu le ciel ouvert, eh bien, il va avoir tout autour de lui toute une armée qui va le combattre. Ah, il ne faisait pas partie des 12. Ah oui. Voilà, naturellement, lui, il est arrivé trop tard. Mais il n'était pas trop tard. Parce que Dieu avait voulu que, quelque part, eh bien, il ait sa place, mais après les autres. Peut-être pour devenir le premier. Peut-être. Parce que quand on considère la place que l'apôtre Paul tient dans l'écriture du Nouveau Testament, c'est quand même très épître. C'est pas n'importe quoi. Alors, nous avons tout cela. Et on le sent très sensible, particulièrement là, dans 2 Corinthiens, très sensible aux critiques portées contre son apostolat, son ministère. Et vous savez que c'est un euphémisme de dire son ministère pour la bonne raison qu'il était prophète, il était docteur, il était évangéliste, il était pasteur, il était, eh bien, il était tout en quelque sorte. Hein. Il avait toutes les qualifications de ce que Dieu lui avait donné, cette attribution est dans le choix de Dieu. Et voyez-vous, la contestation qui se lève particulièrement dans l'Épître aux Romains, c'est parce qu'il est suspect de se vanter de son appel. Alors, il y a des gens qui se vantent de leur appel et qui n'ont pas d'appel. Ça, il faut quand même quelquefois le signaler. Ça se manifeste et ça se voit à un moment donné. Ça se voit pas par les œuvres, ça se voit par les fruits. Mais Paul était un homme authentiquement appelé et il est obligé de combattre. Combattre ici, combattre là, d'écrire et ceci et cela. Et bien sûr, l'écriture qu'il nous a laissée, c'est ce qui nous permet aujourd'hui de nous édifier. C'est préventif, ça nous construit. Et pourtant, comment un homme comme Paul a-t-il pu se batailler, mener les combats qu'il a menés, alors qu'il avait reçu des révélations de Dieu? Il avait reçu la puissance également, les dons de l'Esprit, et puis il était autorisé. Alors, l'apôtre se défend, ou défend son ministère, non par vanité comme l'accusent ses détracteurs, encore moins par orgueil, parce qu'on a souvent présenté l'apôtre Paul comme un homme orgueilleux. Voilà. Ah ben c'est certain que il a quand même monté jusqu'au troisième ciel. Hein. Et c'est sûr que ceux qui sont restés sur terre, ils se disent, mais comment il a pu arriver? Avant, naturellement, longtemps avant l'invention de l'aviation et tout ça, comment il a pu arriver à ça, naturellement? Alors, mais je crois que Paul est forcé, contraint de dire, d'expliquer ce que Dieu lui a donné, pour une bonne raison qu'il le dira dans notre texte, il dira, mais, et ça c'est une preuve d'humilité, puisqu'on parle de vanité et d'orgueil, il dira, mais ce n'est pas à dire que nous soyons nous-mêmes capables de concevoir quelque chose. Et ça c'est écrit. Donc ses détracteurs n'étaient certainement pas au courant de tout. Comme venant de nous-mêmes, il dira notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Et ça, ça coupe court à tout. Et heureusement qu'il l'a écrit. Mais sans qu'il l'ait écrit, moi je crois et je considère Paul comme un homme de Dieu d'exception, un homme de foi d'exception, et un homme qui a beaucoup souffert pour être le messager de Dieu. Vase de terre, lui-même, considérant, il l'a écrit aussi, c'est une parabole que nous trouvons dans ses écrits, mais pour porter un trésor d'une infinie richesse. Alors, pourquoi fait-il tout ça? Pourquoi a-t-il écrit ce chapitre? Pour la bonne raison, c'est que nous nous apercevons d'une chose, c'est qu'il veut donner la preuve à tout, dans le temps et dans l'espace, jusqu'à nous, la preuve évidente de ce que peut être un vrai serviteur de Dieu et un faux serviteur, un faux messager de Dieu. Et ça, nous avons besoin par les temps qui courent, et comme dans tous les temps et les temps à venir, de véritablement regarder les choses comme Dieu nous les enseigne. Je l'ai dit, Jésus nous parle des faux prophètes, il nous dit, mais vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et c'est pas les œuvres, parce que des œuvres, on peut en faire avec un peu de psycho, et puis toutes sortes de choses, quelques charismes humains, et puis peut-être même inspirés d'ailleurs. Alors là, on peut en mettre plein la vue à tout le monde. Mais un vrai serviteur de Dieu, il se caractérise tout simplement comme Paul, eh bien, par les fruits de l'esprit, qui vont être en accompagnement au don de l'esprit. Et s'il n'y a pas les fruits au don, eh bien, c'est nul. Et je crois qu'il faut aussi au don, eh bien là, tout ce qui concerne, eh bien, cette mainmise de Dieu et ce doigt de Dieu qui sanctifie les dons spirituels, mais il y a naturellement, eh bien, les fruits qui l'accompagnent. C'est pour ça que quand il écrira 1 Corinthiens chapitre 12, 13 et 14, il parlera des dons au 12, il parlera des dons au 14, et en plein milieu, il mettra le 13, qui est véritablement l'hymne à l'amour et aux fruits de l'esprit. On le comprend tout ça. Donc il veut laisser la preuve, ce qu'est un vrai et un faux. D'ailleurs, ne l'écrira-t-il pas dans le livre des Actes, et je le cite pour mémoire, tout simplement pour vous le rappeler, parce que là aussi, il fait ses adieux à tous ses collègues de toute la région d'Éphèse et de toute la contrée, et il dira ces paroles, parce qu'elles sont évidentes, et là nous sommes tout à fait avec la preuve que Paul n'est pas un orgueilleux, et il dira ceci au verset 24, il dira cette parole, tout simplement, alors que je retrouve, voilà, « Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. » Voilà la lettre, voilà le messager. « Et maintenant voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu desquels j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu, faisant son travail de messager. » C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Et il ajoutera ces paroles, « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi, évêque, surveillant, ancien, pour paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. » Et il ajoutera certainement avec une profonde tristesse, c'est indéniable. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau et qu'il sèvera au milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. C'est pas après Jésus, c'est pas après ceci et cela, mais après eux. Veillez donc et souvenez-vous que depuis 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'observer avec larmes de prier pour vous, de vous consoler, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Voilà. Voilà l'apôtre Paul, tel qu'il se présente et pourquoi il est obligé, malheureusement, de se justifier. Paul a eu un combat toute sa vie, un combat incessant pour maintenir la vérité, puisqu'il nous parle de ceux qui viendront comme des faux docteurs, qui enseigneront des choses pernicieuses, qui viendront détourner, dénaturer le message de Jésus, le message de l'Évangile. Alors, maintenir la vérité par le Saint-Esprit. Parce que nous pouvons toujours maintenir le monument de la vérité dans quelque chose de figé, dans quelque chose de froid, quelque chose d'arbitraire, quelque chose qui finalement n'a plus rien à voir avec la pensée de Dieu, mais par le Saint-Esprit. Parce que il y aura toujours des détracteurs à l'autorité de la parole de Dieu et à ses messagers. C'est l'objet de sa lettre. Et ce qui fait dire à Pierre, et je retourne vers Pierre, ou je me tourne vers ce qu'il a écrit dans sa deuxième épître, quand il dit ceci, et particulièrement en soulignant le message de Paul, et il dira ceci au chapitre 3 et au verset 16, cette parole, c'est qu'il fait, pardon, je lis un peu plus, « Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul » vous l'a ainsi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée, c'est ce qu'il fait dans toutes ses lettres, où il parle des choses, de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens, comme celui des autres écritures, pour leur propre ruine. Vous savez, en tous les cas, une prise de conscience que Paul et Pierre avaient eu des démêlés, finalement, mais que tout cela a été oublié, puisqu'il fait hommage à Paul, qu'il a écrit dans ses lettres, toujours la lettre, et des choses difficiles, et dont les gens, peut-être, heurtent sur ces choses difficiles pour en tourner le sens, en faire des fausses doctrines, en faire des sectes. Voilà, en quelque sorte, c'est ce qui, eh bien, est dit dans ce texte. Alors, il convient que lorsque nous sommes confrontés avec la parole de Dieu, la lettre de la parole de Dieu, le message de la parole de Dieu, on pourrait toujours penser à l'enveloppe, on pense à l'affranchissement, et tout cela, naturellement. C'est d'abord d'écouter et de croire. Pour devenir et être, parce que ça ne sert à rien si nous écoutons et que quelque part nous croyons et que finalement ça soit que quelque chose, une influence superficielle, mais c'est pour devenir, et ça, ça a été le but de Paul, de marteler auprès des églises que, écoutez, c'est une chose, croire, c'est une autre, mais de garder ce que nous avons entendu pour devenir et être des hommes de Dieu, des disciples de Jésus-Christ. Une lettre vivante, en quelque sorte. Vous êtes une lettre vivante, dira-t-il aux Corinthiens, par notre ministère. Et nous le sommes aussi, et nous sommes appelés, c'est ce que je voudrais dire ce matin brièvement, c'est que nous sommes appelés à être une lettre vivante par la manière digne dont nous vivons notre foi et notre christianisme. Autrement, ça ne sert à rien, et ça ne fait que apporter des moqueries ou de l'ironie chez les gens qui voient et qui juge le christianisme s'il n'est pas vécu. Vous êtes le sel de la terre. Le sel qui a perdu sa saveur ne sert à rien. Et vous êtes la lumière du monde. Si vous n'êtes plus qu'un lumignon qui fume, il y a encore un peu de lumière. L'espoir n'est pas perdu, mais ça n'éclairera pas beaucoup. Ça, c'est le message adressé aux églises par Paul, et c'est un message du XXIe siècle, assurément. Et puis, vous avez remarqué avec moi, avant de rentrer un petit peu plus loin, il nous est dit... Mais l'esprit, la nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue et l'esprit vivifie. Vous savez, dans une lettre, on peut écrire toutes sortes de choses. Allez refermer, confidentialité, vous l'envoyez au destinataire. Après, c'est lui qui va apprécier ce qu'il reçoit, ce qu'il lit, ce qu'il reçoit. Mais je crois qu'il y a un message tout à fait particulier pour nous qui sommes chrétiens. C'est le message du Nouveau Testament. Bien qu'il y ait des choses qui soient excellentes dans l'Ancien, mais je voudrais rappeler que nous ne sommes plus dans l'Ancien Testament, nous vivons dans le Nouveau Testament, c'est pourquoi nous sommes appelés chrétiens, du nom de celui qui est l'inspirateur, l'auteur de cette nouvelle alliance. Et il est bien dit, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Et vous savez, une des caractéristiques qui a marqué le christianisme naissant, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Première chose, après... l'ascension de Christ, la crucifixion, la résurrection et l'ascension, tout de suite, immédiatement, restez à Jérusalem parce que une puissance va survenir sur vous et immédiatement, c'est la descente du Saint-Esprit. Et ça, c'est quelque chose qui doit être rappelé, qui doit être vécu parce que si nous restons sur la lettre, eh bien, elle est inopérante. Elle ne va faire que des chrétiens secs, morts, juges et il n'y aura pas grand-chose. Nous pouvons prier pour Israël, pour que véritablement l'Israël d'aujourd'hui rentre dans cette dimension de l'Esprit pour reconnaître leur Messie. Hein. Il n'y a que par l'Esprit de Dieu. Hein. Pour l'instant, il semblerait qu'ils n'ont pas encore. Mais il y a de par le monde des milliers, des centaines de milliers, je l'espère, de juifs messianiques qui ont reconnu Jésus. Alors, ça va se faire. Mais ça se viendra en grande échelle, peut-être dans des moments particulièrement sensibilisants pour Israël, des moments peut-être tragiques. Alors, la lettre tue mais l'esprit vivifie, et la gloire de tout véritable ministère, et Paul pouvait le dire, sa gloire à lui, c'était pas la sienne propre. Eh bien, cette gloire où réside la puissance du Saint-Esprit qui nous donne la vie et qui crée une vie nouvelle, une nouvelle naissance. Ça, c'était le but de Paul. C'est ça ce qui est important. Et Paul travaillait à cela. En tant que juif, en tant que rabbin, ancien rabbin, nous pourrions dire, disciple de Gamaliel, il en connaissait peut-être au-dessus, il le dit d'ailleurs. Il fait dans Philippiens tout l'étalage de son parcours avant sa conversion. Mais à partir du moment où il se convertit, il se répand en Christ à ce moment-là. Tout Christ est à lui, hein, il le dira, si je vis aujourd'hui, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, on connaît cette brutale et miraculeuse conversion. À ce moment-là, eh bien, le but, et c'est ce qui fera sa gloire, c'est pas d'être finalement ceci et cela, mais c'est d'être un homme, un messager avec une lettre, qu'il a donnée d'ailleurs aux Corinthiens. Mais ce qui fera le sujet de sa gloire, c'est d'apporter la vie par sa prédication, qui annonce tout simplement une transformation, une nouvelle création. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, c'est ça l'essentiel. Je passe maintenant à autre chose. Je l'ai dit et je le rappelle, les Corinthiens, qui s'était converti, et quelle ville, hein, Corinthe, hein, ville de tumulte, ville de débauche, etc., etc., mais le message a passé. Les Corinthiens convertis à Jésus-Christ sont une preuve vivante du ministère de Paul. Il le rappelle, il le dit, mais en quelque sorte, il le dira sous d'autres mots, il dira « Mais vous avez un père spirituel, c'est moi !» Et qu'est-ce que les Corinthiens lui en ont fait voir? Dieu lui avait dit d'ailleurs au moment de sa conversion et un peu plus tard, il lui dira « Tu verras de quelle façon tu vas souffrir pour la cause de mon nom. » C'est ce qui s'est passé dans toute la vie de Paul. Et il parlera d'enfantement douloureux à un moment donné pour amener ses églises et ses hommes à être faits en Jésus-Christ. Il dira « Mais vous êtes comme mes enfants bien-aimés, avec quelle affection il en parlera ?» Et il dira « Mais je suis votre père spirituel. » Oh, ils l'ont maltraité, hein. Et à un moment donné, je crois que c'est dans les Galates, l'apôtre Paul dira « Mais parce que je vous ai dit la vérité, vous êtes devenus mes ennemis. » Il y a de quoi pleurer, hein. « Vous êtes devenus mes adversaires, mes ennemis. » C'est terrible, naturellement. Donc, incontestable, Paul a marqué d'une manière indélébile les hommes qu'il a rencontrés, les églises qu'il a fondées, comme aujourd'hui il peut marquer, et il nous a marqués profondément. Il ne remplace pas Jésus, hein, naturellement, il n'est qu'un simple serviteur. Mais néanmoins, heureusement qu'on a toutes ces lettres, heureusement qu'on a tout cela. Hein. Et l'image qui est utilisée, eh bien, est l'image d'une lettre écrite, dont, si vous me permettez, cette allégorie ou cette comparaison, ou simplement, eh bien, cette parabole, le papier, c'est le cœur de l'homme. Ouais. Ah oui. Il y a toutes sortes de qualités de papier. Hein. Hein, il y a toutes sortes de conditions également. Et voilà. Donc, qualité, c'est le cœur de l'homme. C'est pas l'esprit. C'est pas le cérébral. C'est pas le raisonnement. Ce n'est pas l'analyse. Bien que Dieu nous ait jamais demandé de faire abstraction de notre intelligence et de notre raisonnement. Mais de laisser tout cela entre les mains du Saint-Esprit pour nous amener à la vérité, pour nous amener à Christ. Donc le papier, c'est le cœur de l'homme. Ce qui est écrit sur ce papier, c'est un message de grâce. Et je l'ai dit tout à l'heure, moi je prêche la grâce, je prêche pas la loi. D'ailleurs, je ne sais pas comment je pourrais faire. C'est pas en moi. Ou ça me serait complètement étranger. Oui, la loi, d'accord, mais éclairée par le Saint-Esprit. Autrement, c'est une lettre morte, une lettre qui tue, une lettre qui, finalement, renferme les hommes au lieu de les libérer, les met dans une prison, hein, et qui fait que il n'y a que soupir et lamentation. Mais la grâce, c'est autre chose. Il nous est dit que la loi est venue par Moïse, mais la grâce est venue par Jésus-Christ. Et ça, la grâce et la vérité est venue par Jésus-Christ. Étant lui-même la vérité, il se l'est donné comme finalement, eh bien, un tribut. Alors, c'est un message de grâce qui est écrit. Moi, je n'écris pas des versets. Je ne peux pas écrire des versets de condamnation ou même devant la sanction du péché. Ce n'est pas à moi de le faire, puisque cette lettre-là était insuffisante. C'est pour ça qu'il y a eu un deuxième testament qu'on appelle le nouveau. C'est pourquoi les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et nous devons prier pour qu'il y ait des messagers de grâce dans notre monde. Et chacun d'entre vous, vous êtes un messager de grâce. Ou une messagère de grâce. On n'est pas là pour fustiger, on n'est pas là pour bombarder, on n'est pas là pour faire toutes sortes de choses. Attendez, ça va bientôt arriver dans notre monde. Nous sommes là pour finalement apporter, eh bien, sur ce papier, sur cette lettre, écrit un message de grâce, celui de l'amour de Dieu. Je crois qu'on n'amènera jamais les pécheurs à se repentir quand on leur parle de l'enfer, de la condamnation et de la damnation. Laissons ça à toutes sortes de gens qui extravaguent, qui extrapolent. Mais ce que les gens ont besoin, c'est que malgré leurs péchés, malgré leurs fautes, malgré leurs erreurs, on leur dit que Dieu quand même continue à les aimer. Ça, c'est important. Remarquez, je ne serais pas là pour vous le dire si Dieu ne l'avait pas fait avec moi. Et j'en suis complètement conscient. Et il le fait encore tous les jours avec moi. Je tiens à vous le dire au passage. Ouais. Le doigt de Dieu qui écrit. C'est son esprit, l'inspiration. Ouais. Il y a différentes inspirations, vous savez, dans l'écriture des hommes. Hein. Il y a l'inspiration parce que, bon, il y a là des capacités de l'âme et de la pensée, etc. Il y a aussi des inspirations qui sont profondément dangereuses et pernicieuses. Hein. Vous savez, l'écriture automatique, hein. Elle vient d'où celle-ci, hein. Et toutes sortes de choses. Ouais, c'est ça, le doigt de Dieu. Et il écrit. D'ailleurs, on l'enseigne aux futurs, pasteurs, hein, en ce qui concerne cette matière, la bibliologie. Voilà. Hein. L'Esprit de Dieu, le doigt de Dieu. L'encre n'est autre, si vous me le permettez, ce n'est pas en bleu ni en noir, c'est en rouge, c'est le sang de Jésus-Christ. Parce que c'est quand même là, hein. Finalement, c'est véritablement cette écriture. C'est l'écriture du sacrifice, de l'expiation, de tout ce que peut comporter la rédemption. Donc le sang de Jésus-Christ crucifié et glorifié par sa résurrection, qui devient éternelle, cette écriture-là. Puis la signature, vous savez ce qui est marqué? Tout est accompli. C'est pour ça que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Si vous sortez de ce cadre-là, il n'y a pas grand-chose, hein, naturellement. Signature de Dieu, tout est accompli par une parole qui descend de la croix, la dernière des dernières que Jésus va prononcer sur cette terre. Tout est accompli, qu'est-ce que j'ai à faire? La seule chose que j'ai à faire, c'est tout simplement de croire, de mettre ma foi dans ce qui m'est dit. Je crois qu'il y a eu une prophétie ce matin qui rappelait de croire à la parole de Dieu, qui marquait le fait que Dieu parle, et il faut y croire envers et contre tout. Nous sommes environnés peut-être de toutes sortes de choses qui sont négatives et qui nous font peur, qui nous font craindre, en disant, est-ce que tu as réellement dit, Seigneur? Est-ce que c'est vraiment ça? Mais le Seigneur nous dit que c'est ça, et c'est à nous de nous livrer entre ses mains et de dire, eh bien Seigneur, je m'abandonne complètement et totalement, et je te fais confiance, je crois à ce que tu dis. Et ça va être disputé, hein, que vous vouliez croire à Dieu sur sa parole. Ah, il y en a un qui va s'occuper de vous, hein. Mais vous avez la lettre, hein. La lettre vraie, la lettre vivante. Vous êtes vous-même une lettre vivante. Qu'est-ce que devant cela, l'ennemi, l'adversaire, l'accusateur, celui qui condamne, celui qui nous fait peur, mais qu'est-ce qu'il peut faire? Rien du tout. Tout est accompli. Et la lecture que nous pouvons en faire dans sa compréhension de cette lettre, c'est tout simplement par la foi. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et c'est par la foi que je peux comprendre les choses. J'étais, je suis devenu. Je pouvais lire la Bible ou rarement avant ma conversion, ou très rarement avant ma conversion, mais je ne comprenais rien à rien, pas grand-chose en tous les cas. De tout ce système religieux, de toutes ces imbrications, de tout ce labyrinthe, je ne comprenais rien. Je comprenais bien intellectuellement, mais le reste, ça ne me dépassait. Lorsque j'ai reçu cette lettre qui s'appelle la Bible, alors ça s'est pas fait dans une illumination où j'ai tout compris. C'est pour ça que vous qui arrivez dans nos églises, vous allez comprendre progressivement. Si quelqu'un arrive en une nuit à tout saisir, il viendra me voir parce que c'est quand même un phénomène. Hein. Mais toujours est-il que c'est marcher, apprendre à marcher et puis à grandir au fur et à mesure pour arriver à la maturité. Et c'est vrai que ce que nous pouvons comprendre de la parole de Dieu. Et c'est une illumination de l'esprit. Il y a des textes sur lesquels peut-être encore aujourd'hui nous butons, et à un moment donné, il suffit qu'ils soient expliqués en prédication, qu'ils soient révélés d'une manière ou d'une autre, ou dans une simple lecture en raison et en correspondance avec un besoin du moment, ou peut-être avec une nécessité du moment, Dieu nous ouvre les yeux, on dit, mais ce texte, c'est extraordinaire! Je ne l'avais pas compris, aujourd'hui il me fait un bien énorme. Il m'exhorte, il m'encourage, et il me console. Et maintenant je sais. C'est merveilleux l'action de Dieu, hein. La lettre tue, mais l'esprit vivifie, et c'est là où nous avons vraiment besoin d'aller en profondeur. Ce que Paul tente de nous faire comprendre à travers toutes ces épîtres et celles que nous avons lues, c'est que nous ne pouvons être tous des prophètes, certainement pas, que nous ne pouvons pas tous être des apôtres ou d'autres ministères dons, mais néanmoins, toutes les épîtres, c'est-à-dire les lettres écrites de la main de Dieu en nos vies, témoigne aux yeux des hommes que nos cœurs ne sont pas des tables de pierre, mais des tables de chair. C'est ça ce que les gens ont besoin de voir. C'est pour cela que j'ai souligné ce message ce matin, pour nous dire, c'est vrai, que nous pouvons aspirer au don spirituel, nous pouvons aspirer au service, et heureusement, et que Dieu les multiplie, que chacun d'entre nous, il n'y ait personne qui se dise, eh bien moi je suis inutile. Non, là aussi, nous avons besoin d'éclairage pour savoir où Dieu nous veut, avec une qualification qui sera la sienne. Alors on ne sera pas tout à la fois, ça c'est certain. Mais une chose qui est certaine, c'est que nous sommes une lettre écrite de Christ. auprès de notre famille, auprès de nos amis, de nos collègues de travail, autour de nous. Vous savez, les gens, ils sont pas fous, hein. Ils nous entendent, ils nous voient. Et vous savez, quand ils entendent peut-être notre langage, où il n'y a pas de vulgarité, où il n'y a pas de grossièreté, les réactions que nous pouvons avoir avec des choses inédites ou des choses qui provoquent, ben, ils le voient aussi. Nous sommes une lettre écrite. Ça, c'est une chose dont il faut tout à fait être conscient. Notre vie personnelle est un livre. Et on aura des surprises de l'autre côté. Nous serons un livre ouvert à la vue. Alors vous allez me dire que je suis déjà dans le troisième ciel. Hein. Non, pas encore. Mais je crois que on lit les histoires, les belles histoires de Gédéon, de David, etc., etc. Mais notre histoire, je crois que pour les uns et pour les autres, nous qui aurons marché en aimant le Seigneur, mais de l'autre côté, la bibliothèque, elle serait immense, ça serait universel. Et on dira, tiens, voilà, un tel, mais c'est l'histoire de sa vie. Où Christ sera au cœur de notre salut, de notre rédemption, de notre régénération et de notre transformation. Et ça sera la vue de tous, hein. Ouais, une belle lettre, hein, un beau livre. Alors ça, c'est enthousiasmant. C'est très enthousiasmant tout ça. Enfin, je vous dirai ça un petit peu plus tard, hein, parce que pour l'instant, on est en train d'écrire. Ouais, c'est Dieu qui écrit. Alors, table de chair, table de pierre, qui n'est pas fait de formalisme, de ritualisme, de religiosité, enfin de tout ce qui voilà peut comporter, mais des tables de chair sur lesquelles Dieu y a inscrit sa volonté, qui n'est pas toujours à réaliser, c'est vrai, il y a des combats et des luttes, hein. C'est pour ça qu'il y a de la dualité en nous, mais il va y arriver, moi je crois. On se bagarre tous avec des choses. Et quelquefois on se décourage, on se dit, mais Seigneur, j'y arrive pas, c'est pas possible, c'est plus fort que moi. Ah. Mais je veux lui dire à chaque fois, Seigneur, en revenant vers lui, en lui demandant pardon, Seigneur, moi si j'y arrive pas, mais moi je crois qu'un jour tu vas y arriver avec moi, tu vas bien finir par maîtriser cette nature. Tu vas bien finir par y arriver, parce que quand même... Mais il faut toujours lui faire confiance et ne pas écouter la voix de l'ennemi qui nous dit « Oh, tu n'y arriveras pas. Regarde, le chrétien que tu es, le piètre disciple que tu es, mais regarde, tu es la risée de tout le monde. Regarde, voilà. » Non, faut encourager, faut pas décourager. Il faut pas se décourager soi-même, parce que Dieu a la solution. Moi, je me dis toujours, moi, si je vois pas la solution, si je la vois pas à l'origine apparaître, toi, en tous les cas, tu dois savoir ce qu'il en est, hein. Tu dois le savoir. Moi, je te fais confiance. Ça me suffit de savoir que toi, tu sais, même si je ne sais pas. C'est la foi. Hein. Alors, faut pas se décourager. Je vous encourage. Hein, regardez, ô Seigneur, Dieu nous a donné le temps de vie. Il nous a donné un temps de vie. Il est long ou plus court, je ne sais pas, hein, peu importe. Mais il n'a pas écrit le dernier mot, hein, en ce qui nous concerne. Quelquefois, on est tellement découragé qu'on veut mourir. Ça vous est jamais arrivé à l'esprit, ça? Non? Ah, ça peut être une idée saugrenue. On dit, bah oui, mais un chrétien, bah oui, mais quelquefois, ça peut arriver. De dire, Seigneur, allez, enlève-moi, hein. Terminé, moi, j'en veux plus, hein. J'y arrive plus, hein. C'est pas possible. Le Seigneur nous dit, bah attends, tu n'es qu'au commencement. Bien, ça promet. Mais le Seigneur est là pour nous dire, tu vas continuer, et tu continueras avec moi. Je te tiens la main. Nul ne les ravira de ma main. Ce sont des paroles. Mais ce sont pas des paroles, finalement, comme cela en l'air. Ce sont des paroles qu'il veut écrire dans nos cœurs. Alors, il y a inscrit sa volonté. Il nous rappelle son appel. Oui, il nous rappelle son appel. Quand on sait que Dieu ne se repent pas ni de ses dons, ni de son appel. Alors on continue, hein. Et il a inscrit son salut. Nous sommes sauvés. Ce que nous avons fait ce matin à travers la louange individuelle ou le chant des cantiques, qu'est-ce que nous confessons? Nous confessons notre salut. Autrement, on ne chanterait pas. On pourrait chanter autre chose. Bon, enfin, c'est ça, hein. Ministère en lettres de feu, où la grâce et l'amour de Dieu est visible pour tous. Et je termine. Ça va être bref ce matin. Je termine, tout simplement. Quel être suis-je? Oui. L'enveloppe, c'est la confidentialité, la recommandation. Il y a ce que j'écris dedans, ce que je veux bien écrire avec Dieu. C'est lui encore qui porte ma main et qui m'inspire par le Saint-Esprit pour ma vie personnelle, ma vie morale, ma vie spirituelle, tout mon équilibre de ce que je suis dans ma personnalité Voilà, mon intelligence, ma volonté qui a besoin d'être non seulement réparée, mais restaurée et consolidée. Tout cela, c'est une lettre que j'écris. Puis quand je sais que nous avons été affranchis, vous comprenez? Ça a été payé le prix maintenant pour aller, pour circuler, pour être libre dans la vérité, pour être libre dans ce monde, dans cette vie. Eh bien, l'affranchissement a été payé, je suis maintenant libre. Et puis, en attendant, je dois demeurer autant que Dieu le permette, parce qu'il m'a donné une vocation, un ministère. Quand je dis « je », c'est tout le monde. Hein. Eh bien, je suis justement celui qui va porter. Et nous devons être des porteurs de bonnes nouvelles. Et cette bonne nouvelle, c'est une nouvelle de grâce, c'est une nouvelle d'amour, c'est une nouvelle qui donne et qui transmet la vie. Alors que Dieu nous bénisse, que Dieu nous donne sa grâce à travers ces quelques mots. Alors, j'explique que c'est vrai que c'est un petit peu plus court et je vois que j'ai fait énormément de progrès aujourd'hui. Je suis étonné. C'est parce que nous allons avoir une assemblée extraordinaire, une assemblée générale extraordinaire. Mais je vous en dis quelques mots tout de suite après. On va simplement remercier le Seigneur pour cette lettre. Vous êtes une lettre écrite de Dieu dans vos cœurs. Que Dieu nous bénisse. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Et nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es merveilleux, Jésus. Oh, c'est toi qui nous as appelés. C'est toi, Seigneur, qui as fait de nos cœurs, après avoir été purifiés par le sang de Jésus, eh bien, tu en as fait des tables, non pas de pierre, ce que nous étions auparavant, impénétrables, avec toutes les tortuosités, toutes les injustices, toute la dureté, tout ce qu'il pouvait y avoir d'impitoyable, mais tu en as fait des cœurs de chair pour y faire déposer ton esprit. Et nous te bénissons et nous te remercions. Tu bénis nos frères et nos sœurs. Tu leur fais du bien, Seigneur, ce matin. Tu leur donnes ta grâce. C'est au nom de Jésus que nous te le demandons. Et nous voulons, Seigneur, en effet, te demander que tu nous fasses progresser. Moi, je te le demande pour moi-même. J'ai tellement besoin, Seigneur. Et j'ai besoin de ta force. J'ai besoin de ton esprit. J'ai besoin de ta parole, écrite et illuminée par ton esprit. J'ai besoin, en effet, Seigneur, de toute la grâce de Dieu qui doit découler, Seigneur, dans ma vie pour être une lettre écrite, pour être une écriture même de Dieu et qu'ainsi elle puisse être vue. Lorsque l'enveloppe, en effet, Seigneur, disparaît, eh bien, à ce moment-là, ce n'est plus de la confidentialité, ce n'est plus de la discrétion. Un chrétien, il est le sel de la terre, et il doit donner soif, parce que le sel, ça donne soif. Et il doit être la lumière, c'est-à-dire qu'il doit éclairer partout. Et nous te bénissons et nous te rendons grâce. Alors fais-nous grâce, fais-moi grâce, Seigneur, dans le nom de Jésus. Donne-moi d'être une lettre écrite, une lettre vivante, de Jésus mon Sauveur, et chacun d'entre nous, Seigneur, là où tu nous as placés. Merci, Seigneur, pour ta bonté et ta fidélité. Merci mon Sauveur. Amen. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.